Le lendemain donc, bien qu'il pût des ficelles, tous deux montèrent sur le char, où les pauvres veaux destinés à l'immolation étaient déjà installés, et regardaient d'un air piteux à travers le filet recouvert d'une bâche qui devait leur servir de parapluie. La petite ville, ou mieux, le grand et populeux village, où Félix Prenelle trouvait l'écoulement des produits de sa ferme, était éloigné des alisiers de 2 heures environ. Pendant tout le trajet, le maître et son jeune domestique n'échangèrent pas une parole. Marcel était fatigué, abattu. Il remarquait avec étonnement les regards de travers que le fermier lui lançait et qui exprimaient quelque chose de pire qu'une simple mauvaise humeur. Mais ils ne s'en mettaient pas trop en peine toutefois. Enveloppés de leur gros manteau de drap, les deux hommes bravaient la pluie et se contentaient de secouer de temps en temps leur chapeau de feutre dont les larges bords ruisselaient comme des gouttières. Arrivés au village, ils se rendirent d'abord chez le boucher, puis revinrent à l'hôtel où le fermier avait coutume de remiser son char et de faire donner l'avoine à son cheval. « Allons boire une bouteille pour nous sécher, » dit alors Félix Prenelle en adressant pour la première fois la parole au jeune homme. Il entra dans une vaste salle qui occupait le rez-de-chaussée de l'hôtel et servait de café. On lui apporta une chopine de vin rouge qu'il partagea avec Marcel, car c'était un homme très sobre qui se vantait de ne s'être grisé qu'une fois en 30 ans et avoir conclu alors le seul mauvais marché de sa vie. Tandis qu'il sirotait son vin à petits coups, en paysan qui ménage et fait durer le plaisir, il considérait Marcel d'un air peu tendre. « Demain, je lui donnerai son sac, » pensait-il. Mais s'il lui prend fantaisie de rester dans le voisinage et de rôder autour des alisiers, comment la empêcherai-je? « Au diable ce garçon, c'est une vraie poix. Maintenant que je suis englué, je ne sais plus par quel moyen m'en déprendre. » Il se leva pour chercher des allumettes et ménager ainsi celles qu'il avait dans sa poche. Tandis qu'il bourrait sa pipe, ses yeux tombèrent sur une affiche collée au mur et qu'il se mit à lire machinalement. Ce soir, à 8 heures, aura lieu dans la grande salle de l'hôtel un concert vocal et instrumental donné par la célèbre troupe L'Harmonieuse qui vient de quitter Paris et se rend à Saint-Pétersbourg sur le désir exprès de Sa Majesté le Tsar. Répertoire aussi nouveau que riche et varié. Costumes de genre. Mademoiselle Fiorel, bien connue sous le nom de la ravissante Andalouse, se présentera pour la première fois à l'honorable public de cette ville. Monsieur Bartholdi, le brillant ténor napolitain, ainsi que d'autres éminents artistes, ont été rassemblés des 4 coins de l'Europe par le directeur. Lui-même, avec le concours de ses 3 fils, exécutera plusieurs morceaux symphoniques et concertants, choisis dans ce que la musique classique possède de plus exquis et les maîtres modernes de plus palpitants. Suivez le programme de ce festival mélodique et le nom de l'honorable directeur, Amédée Delalire. Félix Prenelle avait depuis longtemps fini la lecture de l'affiche, qu'il n'en détachait pas encore les yeux, comme s'il se fût proposé d'apprendre par cœur ce morceau de style. Tout à coup, il se tourna vers Marcel. « Reste là, toi, jusqu'à ce que je revienne !» Et il sortit précipitamment. Dans le corridor, il rencontra une femme de chambre et l'arrêta au passage. « Est-ce que cet individu, ce monsieur Delalire, j'entends, loge chez vous ?»« Pourquoi ?» fut la réponse pleine de circonspection de cette prudente jeune personne. « Je vous demande s'il loge chez vous !»«
Oui !»«
Où ça ?»
« Faut-il vous annoncer ?» reprit-elle, essayant d'une autre tactique.
« Au fait, si vous voulez, il pourrait être encore à sa toilette. »«
Quel nom, lui dirais-je »«
Quel nom ? Mal apprise que vous êtes. Monsieur Delalire ne me connaît pas. Il sera bien avancé quand vous lui aurez dit mon nom. »«
Je lui annoncerai donc un vieux russe, un porc-épic, et j'espère bien qu'il vous fermera sa porte au nez, » murmura-t-elle en montant l'escalier.
Mais Félix Prenelle la suivait, et quand elle arriva au palier du 3e étage, il était derrière elle, prêt à écouter de quelle façon elle s'acquitterait de son message.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» s'écria une voix masculine en répondant à son léger toc-toc.
« C'est un homme qui veut vous parler.
Je préférerais que ce fût une dame, ma toute belle, mais n'importe, dites-lui d'entrer. » Félix Prunelle n'attendit pas d'autre invitation. Il ouvrit la porte et resta sur le seuil, légèrement surpris. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'une robe de chambre à grands ramages turcs, rouges et jaunes, était assis sur le lit dans l'attitude d'un tailleur, occupé à enduire de noir d'imprimerie les coutures blanchies et frottées d'une demi-douzaine de fracs étalées autour de lui. « Entrez, monsieur, entrez, je vous prie !» dit-il en saluant son visiteur d'un signe de tête très affable. « Je suis à vous dans une minute, un instant encore, pour réparer des ans l'irréparable outrage. » « Voilà qui est fait. Eh bien, monsieur, qu'est-ce qui me procure l'honneur ?» En même temps, il se redressait et se drapait dans sa robe de chambre avec la dignité d'un sultan qui accorde audience à des ambassadeurs mécréants. Félix Prunelle se sentait embarrassé. Il se demandait si ce personnage se moquait de lui. « Monsieur, dit-il enfin, j'ai vu que vous étiez le directeur d'une troupe de... d'artistes, je crois que c'est le mot, et je suis venu vous en offrir un. »« Ah, bien, très bien. Prenez un siège, cher monsieur. Pas de compliments, je vous en prie. » Et sautant vivement à bas de son estrade, il jeta sur le plancher un tas de journaux et de paperasses qui encombraient une chaise et convia son visiteur à s'asseoir. Nous disions donc, fit-il en se plantant lui-même sur une haute malle dont le couvercle bombé formait un perchoir glissant. La désinvolture de ce directeur interloquait décidément le fermier. « Nous ne disions pas encore grand-chose, répondit-il avec un effort pour rassembler ses esprits. J'ai avec moi un jeune homme qui est assez bon musicien, c'est-à-dire très bon, excellent musicien, d'après ceux qui s'y connaissent. Il a besoin de changer d'air et j'ai pensé que vous pourriez le prendre avec vous pour quelque temps. C'est votre fils ? Non, c'est un protégé. Ah, bien, très bien. De quel instrument joue-t-il ? De la flûte. » Il y avait sans doute dans cette simple réponse quelque chose de particulièrement frappant, car l'impétueux directeur fit un bond. « Edgar ! » s'écria-t-il. La porte de la chambre contiguë s'ouvrit aussitôt, et le possesseur de ce nom romantique se montra sur le seuil. C'était un petit jeune homme pâle, aux joues creuses, qui nouait sa cravate, d'un air aussi lugubre que s'il eût médité de s'étrangler à l'aide de cet innocent article de toilette. « Quoi de neuf, papa ? » demanda-t-il en fixant sur le visiteur matinal des yeux aussi ternes qu'un morceau de verre dépoli. « Au fait, je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé, Edgar. J'ai pensé tout haut, voilà l'affaire. »« Ça vous arrive souvent, papa ?» Et le petit jeune homme pâle rentra chez lui. « C'est mon fils, mon premier-né, l'étoile de nos quatuors, » fit Monsieur de la Lyre en baissant la voix. Un vrai génie musical, mais la lame a usé le fourreau. Vous voyez qu'il est menacé de consomption. Il lui faudrait du repos, le chaud soleil du midi. Et nous, pauvres nomades, nous courons à Saint-Pétersbourg pour obéir aux vœux qu'a bien voulu exprimer le potentat de toutes les Russies. Sans Edgar, nos quatuors sont fichus, je veux dire flambés. Vous sentez qu'on a beau se multiplier, si l'on n'est que trois, on ne saurait jouer un quatuor. Et par ordre du médecin, Edgar doit aussitôt que possible renoncer aux instruments qui fatiguent les organes respiratoires. Félix Prunelle commençait à s'impatienter. « Vous aimez les longs mots, monsieur le directeur, » fit-il. « Moi, je préfère les plus courts. Comme ça, nous nous entendrons facilement pour le partage. Je souhaite que nous nous entendions de même au sujet du garçon. » Et comme il voulait profiter de la parenthèse qu'il avait réussi à s'ouvrir dans le discours du bavard directeur, il reprit aussi vite qu'il put « Ça vous conviendrait-il de le faire voyager avec vous pendant quelques mois ? Je désire qu'il voie du pays pour son bien. Il est un peu bouché sous certains rapports, mais vous le trouverez docile et aussi bon musicien que vous pouvez le souhaiter. » « Amenez-le qu'on l'entende, » répondit le directeur qui savait être bref dans les grandes circonstances. « Mais donnez-moi d'abord votre parole d'honneur que vous l'engagerez pour peu que sa musique vous convienne. Je ne veux pas lui expliquer toute l'affaire et que ça ne mène à rien en définitive. Est-il majeur ? Il aura tantôt 21 ans et il ira avec vous de son plein gré. Quelle rétribution demandez-vous pour lui ? Le fermier eut un instant l'idée de répondre, aucune, tant il était pressé de conclure. Mais il se ravisa. « 100 francs que vous me donnerez au départ, afin que j'aie de quoi lui payer son voyage de retour, si, par hasard, ça ne marchait pas. Et 100 francs pour lui, quand il aura été 3 mois avec vous. »« Bien, très bien. Nous mettrons cela sur papier timbré. »« J'oublie que vous n'avez pas de papier timbré en Suisse. » « Ah, la liberté, monsieur, la liberté !»« Si vous croyez que nous n'avons pas d'autres impôts, et rudement lourds encore !»« Il en faut, mon cher monsieur. Autrement, qui est-ce qui paierait le gouvernement ?»« Mais nous ne parlons pas politique. Allez quérir votre phénomène !» Félix Pronel redescendit dans la salle où Marcel l'attendait toujours. Son plan de siège était fait. Il prit le jeune homme par le bras et l'entraîna dans une embrasure où l'on pouvait causer sans crainte d'être dérangé. « Marcel, lui dit-il d'un ton solennel et pourtant affectueux qui étonna le jeune homme, tu as sans doute remarqué que depuis l'autre jour, j'ai quelque chose qui m'ennuie et même me chagrine. Veux-tu savoir ce que c'est ? Ma fille Thérèse a été bonne pour toi. Tu lui en sais gré et tu l'as montré un peu trop à ce qu'il paraît, car les gens s'en sont aperçus. » On en cause partout. On dit des choses qui ne sont pas vraies, assurément. Je connais bien Thérèse. Mais enfin, c'est un bruit du pays. Comprends-tu ?
Je crois que oui, répondit Marcel comme en rêve.
Il n'ajouta pas un mot pour sa défense, car il se sentait coupable. N'avait-il pas osé, bien souvent, franchir en esprit la distance respectueuse qui sépare un inférieur de la fille de son maître ? Et n'avait-il pas été sur le point même, par un après-midi d'orage, d'emporter Thérèse dans ses bras et de laisser échapper son secret ? Comme il restait silencieux, baissant la tête, Félix Pronel reprit. « C'est un grand chagrin et une honte pour moi. Quant à Thérèse, elle ne dit rien, tu sais qu'elle est fière. Mais, à cause de toi, elle se sent humiliée pour la première fois de sa vie. » « Humiliée, répéta Marcel, de ce que je serais heureux de passer au travers du feu pour elle, il n'y a pas là de quoi être humilié. »« Nous n'avons pas le temps de fendre les cheveux en quatre, interrompit le paysan. Tout ce que je voulais te dire, c'est ceci. Au mal que tu as fait à Thérèse, il n'y a qu'un remède, c'est de quitter les Alisiers et même le pays pour quelque temps. »« Maître !» s'écria le jeune homme avec un accent de supplication. « Tais-toi donc, on pourrait t'entendre. »« Mais qu'est-ce que cela me fait ? Je ne parlerai plus à mademoiselle Thérèse, je me tiendrai hors de son chemin. Mais ne me renvoyez pas, j'ai été longtemps un pauvre garçon abandonné à qui personne ne parlait. Vous savez cela, maître, mais vous ne savez pas combien j'étais malheureux. C'est elle qui a fait de moi un homme comme les autres. Si je ne la vois plus, il me semble que je vais redevenir ce que j'étais. » « Il n'y a pas de danger, dit le paysan. Un poussin sorti de sa coquille aurait bien de la peine à y rentrer. Sois donc raisonnable, Marcel. Tu es égoïste, sais-tu ? Le bien que Thérèse t'a fait, est-ce de cette façon que tu le lui rends ? En quittant la ferme et notre voisinage pour quelques mois, tu lui épargnes 1000 chagrins. Reste, c'est très bien. Tu la verras pleurer, les clabauderies iront leur train et nous maudirons tous le jour où tu as mis les pieds chez nous. » Le paysan s'exprimait avec une véhémence, moitié feinte, moitié sincère. Lui-même aurait été embarrassé de dire où commencer son rôle. « Tu la verras pleurer. » Ces mots avaient porté en plein. « Vous avez raison, » murmura Marcel après une lutte de quelques instants. « Je n'avais pensé qu'à moi. Je ferai ce que vous voudrez. » Et sa figure reprit cette expression de mort d'indifférence qui la sombrissait autrefois. « La victoire est à nous, » se dit Félix Pronel, mais il se garda bien de prendre un air triomphant. « Mon pauvre garçon, » dit-il, « je te regretterai, mais nous nous reverrons, ta pénitence ne durera pas toujours. »«
Je pourrai donc revenir, » s'écria Marcel.
« Certainement. »« Voyons, » pensa-t-il, « Thérèse se mariera en automne, ainsi donc. »«
Reviens au printemps prochain, mon garçon. Les mauvaises langues auront trouvé autre chose d'ici là, j'espère. Au mois d'avril ou de mai, je serai charmé de te reprendre. Je t'en donne ma parole d'honneur. »
Votre parole d'honneur, laquelle ?
La meilleure, répondit-il sans s'offenser, tant il était ravi d'en être venu à ses fins. Maintenant, Marcel, tu ne sais pas que j'ai un autre engagement pour toi. Tu ne seras pas sur le pavé en me quittant. »
Ça m'est bien égal. »
Ah, mais pas du tout. Si tu veux te conserver pour le printemps prochain, il faut manger dans l'intervalle. Écoute. » Et il lui résuma en peu de mots les négociations entamées avec M. Amédée de la Lyre.
« Tu seras en charmante société, tu entendras de la musique du matin au soir et tu verras du pays sans dépenser un sou en frais de voyage. C'est tout ce qu'on peut désirer. »
Marcel n'écoutait pas. « Tu es là comme un tronc, » fit son maître impatienté. « Est-ce que tu consens ?»«
Ça m'est égal, je ferai ce que vous voudrez, » répéta-t-il.
« Eh bien, monte avec moi. Ton directeur désire te voir et t'entendre. As-tu ta flûte ?»«
Non. »
« Ils pourront t'en prêter une, je suppose. Allons toujours. » Marcel suivit le fermier, monta au troisième étage et entra dans la chambre dont on lui ouvrit la porte, sans avoir bien conscience de ses mouvements. Il souffrait, voilà tout.
« Vous amenez donc notre jeune dilettante, » s'écria l'affable directeur, qui, dans l'intervalle, avait jugé bon de remplacer sa robe de chambre par un costume plus correct.
« Charmé de faire votre connaissance, monsieur... »
« Je ne me rappelle pas bien votre nom. »«
Marcel Auvernet, » répondit le fermier.
« Marcel, mais c'est tout à fait chic cela. Ça fera bien sur les affiches. Seulement, il n'a pas l'air enjoué, notre jeune ami, » poursuivit M. Amédée de la Lyre d'un ton de regret. « Il est presque aussi mélancolique que mon Edgar. » »«
Histoire de se séparer. Dans quelques jours, il sera tout différent, vous verrez. » »«
Êtes-vous bien sûr qu'il s'engage avec nous de son plein gré ?»
« Allons, jeune homme, nous serions heureux de vous voir une mine plus contente, si c'était possible. »
En même temps, il lui prenait la main avec une bonté réelle et ses yeux vifs cherchaient à rencontrer le regard de Marcel.
« Donnez-nous un échantillon de votre talent. Il n'y a rien de conclu, vous savez. »
On eût dit qu'il cherchait à ouvrir lui-même une porte de sortie.
« Je n'ai pas ma flûte, » dit Marcel, se décidant à parler.
« Oh, s'il n'y a que cela qui vous embarrasse !»
En même temps, il ouvrait une caisse où des instruments de toutes sortes dormaient côte à côte.
« Notre arsenal harmonieux est au grand complet, » poursuivit-il en ajustant soigneusement les pièces d'une jolie flûte d'ébène. « Plus au ciel qu'il n'y eut que des arsenaux de ce genre dans toute l'Europe. Je suis pour la paix, moi, monsieur, et vous ?»
Ce qu'il y avait de commode avec ce directeur, c'est qu'il n'attendait jamais la réponse à ses questions. Ses points interrogatifs étaient de pure politesse. Il ne prétendait pas qu'on les prît au sérieux.
« Maintenant, » fit-il en tendant à Marcel une feuille sur laquelle un fragment de partition était copié d'une très belle main. « Déchiffrez-moi ça, c'est facile. »
« Je ne sais pas lire la musique, monsieur, » dit Marcel avec un certain regret.
Car, chose singulière, ce directeur bavard lui était sympathique, à lui le silencieux.
« Comment donc ? Mais vous connaissez les notes, je suppose ?»«
Je les ai apprises à l'école, il y a longtemps de ça. Pour ce qui est de ses barres et de ses crochets, je n'y vois que du feu. »«
Que jouez-vous donc ?»«
Ce qui me vient à l'esprit. »
Il y eut un moment de silence. Félix Prunel était désappointé, furieux.
« Ah, bien, très bien !» fit lentement le directeur.
« Je comprends. Jouez, mon enfant !»
Et sans qu'il en eût dit davantage, Marcel fut tout à coup assuré qu'on le comprendrait en effet. Il joua la danse rustique sur laquelle il avait composé des variations par un beau soir de mai et qu'il avait appelé dès lors la valse de l'étoile. Thérèse l'avait entendue la première. C'était penser à elle que de répéter maintenant cette mélodie qu'elle aimait. Et pour un instant, Marcel oublia son chagrin. Il se crut sous les noisetiers, au bord du champ de trèfle qui sentait bon. Il joua comme il avait joué ce soir-là. Sans qu'il y prît garde, les portes des deux chambres contiguës s'entr'ouvrirent doucement. On ne vit personne, mais à la dernière note, des applaudissements éclatèrent. Le directeur lui-même s'y joignit avec enthousiasme.
« Si notre connaissance n'était pas de si fraîche date, je vous demanderai la permission de vous embrasser, mon enfant, » s'écria-t-il. « Vous ne savez pas les notes, la belle misère. Vous savez autre chose qui ne s'apprend pas. Votre doigté n'est pas selon les règles, mais vous avez un perlé, un sentiment du rythme, une suavité d'expression, une originalité. Malheureusement pour vous, le public auquel nous nous adressons en général ne vous appréciera pas. Nous tâcherons de vous faire monter plus haut. C'est mon rôle à moi, poursuivit le bon directeur avec une teinte de mélancolie. J'ai servi de marchepied à bien d'autres. Edgar, Flora, Conradin, Raoul, mes enfants, entrez donc. Et les deux portes s'ouvrant à la fois comme au théâtre, trois jeunes gens d'un côté et mademoiselle leur sœur de l'autre firent irruption dans la chambre paternelle. Ils s'arrêtèrent, surpris de voir le musicien à la flûte merveilleuse, vêtu d'une blouse et chaussé de gros souliers. « C'est un paysan du Danube, » dit leur père en devinant ses sentiments. « C'est un diamant brut, c'est une... »« Edgar, mon enfant, tu te tiens dans un courant d'air. » Cet Amédée de la Lyre, ce directeur à la fois solennel et jovial, n'était sans doute qu'un artiste ambulant, une épave du conservatoire, un homme qui avait manqué sa vie par trop de laisser-aller, mais un honnête homme cependant et musicien dans l'âme. Il chérissait ses enfants qui le lui rendaient bien. « Nous cinq, nous nous aimons comme des pauvres, » disait-il. Marcel aurait pu tomber beaucoup plus mal. « Faites connaissance !» s'écria le directeur en poussant les jeunes gens tous ensemble au fond de la pièce. « Moi, je vais m'occuper de régler les derniers détails. » Puis il ouvrit un mauvais secrétaire dont la serrure disloquée n'eut pas offert au voleur une bien sérieuse résistance. « C'est donc notre petit contrat que je vais rédiger. » Et d'une main accoutumée à manier la plume, il écrivit trois ou quatre lignes, en fit un double qu'il signa, puis appela Marcel pour qu'il apposât son nom sur la première feuille, le tout dûment daté et paraffé. « C'est tout à fait volontairement que vous restez avec nous, n'est-ce pas ? » dit-il en posant sa main sur l'épaule du jeune homme. « Nous tâcherons de vous rendre notre société agréable et vous apprendrez le doigté et la lecture musicale. » « Mais je vais retourner avec vous, maître !» dit Marcel en se tournant vers le fermier. « Il faut que j'emporte mes habits, mon linge, toutes mes affaires. »« On t'enverra cela ce soir, » répondit Félix Prenel d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Il vaut beaucoup mieux pour toi de ne pas revenir. Tu en comprends la raison, n'est-ce pas ?» Marcel baissa la tête. La souffrance du premier moment revenait plus aiguë. « Si c'est Alvine qui fait le paquet, » dit-il, « demandez-lui de ne pas oublier mon paroissien. Il est sur l'étagère, à côté de la fenêtre. » Pour ceux à qui cette recommandation semblerait édifiante, je suis obligé d'avouer que ce n'était pas surtout à son paroissien que Marcel tenait, mais à une feuille de lierre qu'il y avait serrée. « Très bien, » répondit le fermier, « on n'oubliera pas ta commission. » « Adieu, mon gars, rappelle-toi que nous serons enchantés de te revoir au printemps. Tu ne seras pas malheureux ici. » En même temps, il tendait la main au jeune homme qui n'eut pas l'air de s'en apercevoir. « Au revoir, maître, » répondit-il en détournant la tête. Les témoins de ces adieux peu tendres se jetèrent un regard surpris. « Emmenez Marcel dans votre chambre et laissez-le seul un moment, » dit Amédée de la Lyre à voix basse en s'approchant de ses fils. « Permettez, monsieur, que j'ai le plaisir de vous reconduire, » poursuivit-il en ouvrant la porte toute grande pour Félix Prenel. « Ce soir, quand vous enverrez à notre jeune ami sa garde-robe, qui est, je le présume, de dimension très portative, je remettrai à votre commissionnaire la somme que vous avez stipulée. Adieu, monsieur, je suis votre obligé, vraiment. » Le fermier s'en alla dans la jubilation. « Nous aurons une grande scène à mon retour, c'est à craindre, » pensa-t-il. « Des reproches, des larmes peut-être, quoique Thérèse ne donne pas beaucoup dans ce genre-là. N'importe, Marcel est avalé, gobé, fini, comme les muscades de l'escamoteur. » Pauvre Marcel, resté seul maintenant dans cette grande chambre en désordre, où mille objets étranges traînaient sur le plancher, encombraient les chaises et les tables, où les moindres détails semblaient symboliser l'existence aventureuse où on le lançait, il cacha son visage dans ses mains et sentit son cœur lui manquer. Pour Thérèse, il abandonnait tout, tout ce qu'il avait aimé jusqu'alors, le petit coin de pays où il avait grandi, la forêt, sa forêt, dont il connaissait tous les sentiers et pour ainsi dire tous les arbres, le village avec sa petite église et son paisible cimetière, les habitudes et les liens que 20 ans avaient formés anneau par anneau.
Thérèse elle-même, la joie de ses yeux, Thérèse, qu'il aimait avec le respect d'un enfant et la passion d'un homme fort, il l'avait vue le matin pour la dernière fois. Marcel se sentait déraciné. Aucune expression ne pourrait mieux rendre la souffrance déchirante qu'il éprouvait. La solitude allait donc se faire de nouveau autour de lui. On ne l'avait tiré de l'abandon que pour l'y rejeter bientôt. Marcel n'accusait que l'audacieuse présomption dont il se croyait coupable. Pour avoir regardé Thérèse, il la perdait. Il resta longtemps, sans changer d'attitude, dans l'embrasure de fenêtre où il s'était retiré pour cacher son chagrin à tous les yeux. Deux ou trois fois déjà, la porte s'était ouverte discrètement, puis refermée sans bruit. Enfin, on se décida à entrer. C'était Edgar de la Lyre, dont la figure mélancolique n'était guère celle d'un consolateur. « La vie est dure, n'est-ce pas ? » dit-il à demi-voix en s'approchant de Marcel. Et il poussa un soupir. « Je ne vous demande pas quel chagrin vous pouvez bien avoir, vous qui possédez du talent et des forces. Moi, je n'ai ni l'un ni l'autre, et c'est pourquoi je dis que la vie est dure. Je sais ce que c'est que de souffrir. Je suis réellement bien fâché pour vous. » Ce discours n'avait certainement rien de remarquable au point de vue de l'éloquence. Il était même assez incohérent. Cependant, il fit du bien à Marcel qui leva la tête. « Je serai plus courageux tout à l'heure, dit-il. C'est le premier moment qui est dur, vous savez. » Sa voix s'étrangla. Il dut faire un violent effort pour réprimer l'émotion qui montait. Edgar ne fit aucune question, mais il dit d'un ton compatissant « Si vous essayez de penser à autre chose, voulez-vous que je vous donne votre première leçon de musique ? Vous en savez plus que moi, car vous êtes un artiste de naissance, mais je pourrais vous enseigner un brin de théorie. » Marcel avait l'esprit bien ailleurs. Cependant, il ne voulut pas refuser cette offre obligeante. Il regarda la feuille couverte de notes qu'on lui montrait, il écouta les explications d'Edgar et, petit à petit, comme la musique était son véritable élément, il s'intéressa à sa leçon. En un quart d'heure, il déchiffra je ne sais combien de portées, presque sans tâtonnement, car son sentiment exquis de la mélodie lui faisait pour ainsi dire deviner les notes avant que ses yeux les eussent reconnues. Edgar était enchanté de son élève. « En moins d'une semaine, dit-il, vous ferez votre partie dans tous nos quatuors, et vous me remplacerez avec avantage, car je n'ai jamais eu de souffle. » Oh, vous savez, voyant que Marcel allait se récrier sur le peu de temps qu'on lui accordait pour se mettre à la hauteur de ses fonctions, nous ne nous lançons pas dans de la musique savante. Notre public ordinaire, un public qui joue au domino, tape les cartes et demande des absinthes pendant le concert, ne l'apprécierait pas. Quelques quadrilles et deux ou trois ouvertures représentent ce que notre programme appelle le palpitant de la musique moderne. Ma sœur chante le muletier de Séville, et bien qu'elle soit la ravissante andalouse, elle a quelques tyroliennes dans son répertoire. Notre ténor, le signor Bartholdi, est italien juste autant que ma sœur est andalouse. Nous vivons de blagues, vous voyez ? Edgar n'était pas gai, mais on ne saurait exiger beaucoup d'un pauvre garçon menacé de consomption. Marcel regardait avec cette sympathie promptement éveillée des gens qui souffrent eux-mêmes. « Nous ne sommes pas trop heureux l'un et l'autre, dit-il, mais nous sommes des hommes. Prenons courage. » Et s'apercevant que c'était lui maintenant qui remplissait le rôle de consolateur, il ne put s'empêcher de sourire. À midi, l'heure où l'on dînait à la ferme, il descendit pour déjeuner avec ses nouveaux compagnons. Mais il ne put rien avaler. Cette table d'hôte, couverte de cristaux de camelote et d'argenterie imitation, l'intimidait. Il pensait à la grande cuisine des Alisiers, à la longue table couverte d'une nappe grossière, mais plus propre que celle qu'il avait devant lui, au grand dressoir brun où reluisaient les plats d'étain, aux gais compagnons qui apportaient à ce repas leur bel appétit et leur belle humeur. Puis il se disait que sa figure, à lui, hâlée et campagnarde, ses mains brunies, sa blouse de toile bleue, devait former un singulier contraste au milieu de cette société non pas très distinguée, mais citadine de teint, de costume et de manière. Cependant, personne ne l'humilia par un ton de condescendance ou des airs protecteurs. Les artistes sont en général moins attachés de snobisme que le commun des mortels. Dans leur existence plus souvent vagabonde que sédentaire, ils voient le monde à vol d'oiseau
Et les barrières des Casses ne leur paraissent ni si hautes ni aussi sacrées que la Sainte Muraille de la Chine. D'ailleurs, comme ils vivent du talent, ils savent l'apprécier, qu'ils se présentent en blouse ou en frac de cérémonie, une rosette à la boutonnière. Et puis, Amédée de la Lyre et ses enfants avaient le cœur bien placé. Voyant Marcel tout abattu, ils mirent beaucoup de cordialité et une certaine délicatesse dans leur accueil. Celui-ci n'était pas assez blasé en fait d'avances amicales pour repousser celles qu'on lui faisait. Il se sentit bientôt plus à l'aise. On parla musique. Ce sujet le fascinait toujours, mais il était honteux de son ignorance. « Quel dommage que nous tournions le dos à Paris !» fit le directeur. « Je me serais donné le plaisir de vous conduire à l'opéra, Marcel. N'importe, nous y retournerons quelques jours. » En revenant de Saint-Pétersbourg, demanda Marcel. Ils se mirent tous à rire. « Notre jeune ami a foi en l'imprimé !» s'écria Amédée de la Lyre. « Il croit au programme. Ne le troublons pas dans ses naïves convictions. Il ne les perdra que trop tôt. » Marcel pensa au mot d'Edgar. « Nous vivons de blagues, vous savez. » Il regarda la ravissante Andalouse, qui avait bien le pied espagnol, mais un minois chiffonné des plus parisiens, le signor Bartholdi, qui oubliait parfois son accent italien et s'exprimait alors comme un franc-comtois pur sang, et le quatuor de la Lyre, qui, s'il ne réalisait pas toujours l'accord parfait en musique, le faisait au moins régner dans les relations de famille. Malgré sa sauvagerie naturelle et son chagrin, le jeune homme était amusé. Il aimait à observer silencieusement et ne s'en fit pas faute. Dans l'après-midi, il eut une autre leçon. Le soir, on le pria d'assister au concert. Mais il n'avait pas encore d'habit présentable et refusa ceux qu'on voulait lui prêter. Ainsi, il passa la soirée seul dans sa chambre du troisième étage, écoutant les sons vagues de la musique qui parvenaient jusqu'à son haut perchoir. Les coudes sur la table, il repassait d'un œil distrait les définitions d'un traité de théorie musicale. Son esprit était absent. « Au printemps », se répétait-il en lui-même. Et son imagination lui montrait les lilas en fleurs, les hirondelles qui voletaient sous le large avant-toit des alisiers, le vert tendre des jeunes hêtres dans la forêt et un voyageur fatigué mais joyeux s'arrêtant au sommet du plateau et annonçant de loin sa venue par les notes claires d'une mélodie que Thérèse reconnaît très bien vite. « 9 ou 10 mois, pensa Marcel, presque une année. Prenons courage, c'est pour elle, mais j'aurais voulu lui dire au revoir. Si je lui écrivais, s'écria le jeune homme, il n'y aurait pas de mal à ça, je suppose. » C'était une grande entreprise, car Marcel n'était pas, on le pense bien, très ferré en matière épistolaire. Au fait, cette lettre devait être la première de sa vie. Edgar, qui monta dans l'entracte pour voir si le solitaire s'ennuyait trop, lui fournit du papier, une plume et un timbre-poste, auxquels Marcel n'aurait pas songé. Il était si plein de son sujet qu'il écrivit d'une traite ce qui suit. « Mademoiselle Thérèse, je sais que je vous ai offensé et qu'à cause de moi, vous avez des ennuis. Tout ce que je désire, c'est d'emporter seule la punition. Il n'est pas juste que vous ayez à souffrir pour avoir été trop bonne envers moi. Pardonnez-moi si c'est possible et permettez-moi de vous revoir au printemps. Je ne sais trop où je vais, mais jamais je ne cesserai de penser à vous. Marcel Auvernet. » Puis il plia sa lettre et sortit pour la glisser lui-même dans la première boîte qu'il rencontrerait. La rue était sombre. La flamme des réverbères, vacillant au vent, jetait une lumière indécise sur le trottoir. Marcel ne remarqua pas un homme à la démarche souple et glissante qui allait entrer à l'hôtel au moment où lui-même en sortait, mais qui rétrograda vivement et le suivit. Cet homme était Félix Prunelle.